Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine et ce matin quelques destinations pour le week-end ou pour les vacances d'hiver en compagnie de Sylvain Bazin et de David Habitant. Des destinations dans la nature, dans le Haut-Jura et dans le massif de la Chartreuse et au cœur des villes à Lens, Nantes et à la Grande Motte. Les journalistes Julien Bisson et Christine Lapelle-Douel vous conseilleront des livres qui vous font du bien. Notre chef Grégory Cohen nous proposera une recette de circonstances chandeleur oblige. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Dans une forme olympique après son isolement, quel est le menu de votre chronique philo ce matin ?
Eh bien, je vous emmène à Pékin pour le début des Jeux Olympiques. On va parler de l'idéal de l'olympisme.
Bonjour Guillaume Todicino.
Bonjour Ali.
Ça vous fait plaisir hein, quand je bafouille. Hein. j'ai vu votre regard.
Hein. Non, je ricane un peu bêtement.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qui deviendra notre ami cette semaine ?
Eh bien, une héroïne de conte de fées. De contes de fées féministes, ça alors.
A tout à l'heure, et ne vous inquiétez pas, vous retrouverez la chronique sexe de Maya Mazorette vendredi prochain. N'hésitez pas à partager vos conseils de destination de vacances en France. N'hésitez pas à défendre votre région au 01 45 24 7000 ou en nous laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Grégory Cohen, bienvenue.
Bonjour Ali Rébéi.
Notre chef bien-aimé en direct de la Station des Arcs. Alors quel est le plat pour ce week-end, le plat gourmand partager ?
Le plat gourmand, ça va être un plat sucré en fait, évidemment chandeleur oblige. On va faire un gâteau de crêpes, normalement on dit que c'est 1000 crêpes mais on va en faire un peu moins, aux agrumes avec... une meringue par-dessus, façon omelette norvégienne.
Oh là 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 là. Alors, une question de Maurice de Clamart qui nous demande que faire avec des restes de fromage que j'hésite à jeter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces restes de fromage ?
Déjà, Maurice, il ne faut pas les jeter, ça c'est sûr. Il y a deux types de fromages. Il y a les fromages à pâte dure et les fromages à pâte molle. Fromages à pâte dure, on peut faire... d'ailleurs, les deux, on peut faire en fait des sauces qui vont accompagner soit des viandes, soit des pâtes. Alors pour les fromages à pâte dure, par exemple, on va mettre de la crème liquide et le fromage à pâte dure, type parmesan par exemple, dans une casserole, on monte en température, le parmesan va fondre, on laisse réduire un petit peu, du coup on va pouvoir napper ce qu'on veut avec. Sur les fromages à pâte molle, en revanche, on va d'abord laisser la crème monter en température avant de mettre le fromage à pâte molle. Et là, on va pas laisser réduire. Dès que le fromage a fondu, la sauce est prête. Après, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Évidemment, des quiches, on peut faire des croquettas. On peut faire, tiens, si vous avez un appareil à gaufres, on peut faire des gaufres avec le reste de fromage. Surtout, Maurice, ne les jetez pas, utilisez-les, c'est super bon.
Merci pour votre conseil, Greg. Bonjour, Christine Lapelle-Douel.
Bonjour, Ali.
Vous êtes plutôt fromage à pâte dure ou à pâte molle ?
Hélas, les deux.
on vous retrouve évidemment dans Psychologie Magazine et vous êtes également la co-autrice de la revue Grand Bien vous fasse. Bonjour, Julien Bisson.
Bonjour, Ali.
À la une de votre hebdo ce matin, hebdo.
Chine, l'envers de la médaille. On vous emmène de l'autre côté de la muraille.
Et on commence avec vous. Christina Pelle-Douel, vous avez choisi un voyage immobile. Nous partons dans l'Himalaya en 1974 à la recherche d'un animal mystérieux. Le livre, c'est Le Léopard des Neiges de Peter Mathieson en poche chez Folio.
Oui. Un grand livre, un grand auteur, et ce livre est alors Le Léopard des Neiges, autant vous le dire tout de suite, et La Panthère des Neiges, c'est le même animal. Un a connu un grand succès récemment, l'autre, celui-là qui a été écrit par cet auteur magnifique, est beaucoup plus ancien, mais absolument remarquable. C'est un livre extraordinaire, c'est un livre qui a inspiré un nombre incroyable d'écrivains voyageurs, de... poète, voilà. Alors, Mathieson, il faut tout de suite le dire, est un très grand auteur américain, mais il n'était pas qu'un auteur, poète, romancier, chroniqueur. Il a aussi fondé, sachez-le, la Paris Review, dans les années, à la fin des années 50, car il est resté environ 2 ans à Paris. Et puis, il est devenu naturaliste, explorateur, etc. Il a parcouru le monde entier à pied. Et surtout, il a écrit des récits de voyage sublimes, extraordinairement beaux, extraordinairement poétiques, inventifs, imagés. Et dont ce fameux Léopard des Neiges. Alors, qu'a-t-il fait, Mathieson ? Alors, je précise aussi, parce que c'est important pour le livre, qu'il était également très féru de bouddhisme, très très savant en matière de bouddhisme tibétain, et un maître zen, et il est d'ailleurs devenu moine à la fin de sa vie, il est mort en 2014, et grand nombre d'auteurs, alors je vois Julien qui approuve, parce que Julien adore aussi Mathiesen, j'en suis sûre, et il a inspiré grand nombre d'auteurs, et beaucoup lui ont rendu hommage, dont Rick Bass, dans son dernier livre, vous savez, je vous en avais parlé, où Rick Bass faisait la tournée des gens qui l'avaient inspiré, et il est allé voir Mathiesen, il lui a apporté de la soupe, et c'était peu de temps avant sa mort. Donc ce grand bonhomme, dans tous les sens du terme, parce qu'il était immense, très, très athlétique, très impressionnant physiquement, est parti avec un homme qu'il connaissait, enfin qui était un collègue, un zoologue, zoologiste. D'ailleurs, on dit zoologue ou zoologiste ? J'ai d'un seul coup une hésitation. Peut-être. Un zoologiste qui lui partait, donc Georges Chalère, qui partait à pied dans l'Himalaya, du côté du nord-ouest du Népal, aux confins du Tibet, à la recherche du baral. Le baral, qu'est-ce que c'est ? C'est une chèvre, enfin, c'est pas très bien si c'est une chèvre ou un mouton en réalité, bleu, le pelage est légèrement bleu, et qui se promène dans l'Himalaya. C'est un animal tout à fait extraordinaire. Il propose à Mathiesen de partir avec lui. Ils partent à pied, évidemment, parce que, autant vous dire qu'en 73, les transports touristiques étaient assez restreints. Et ils s'en vont comme ça, ils décident de partir. Donc ils partent de Katmandou et ils commencent l'ascension, une ascension absolument incroyable, 400 km à pied avec du matériel sur le dos. Ça va durer 2 mois et alors le livre raconte cette ascension, les paysages et surtout pour lui c'est un voyage intérieur, c'est un voyage qui peu à peu le dépouille de tout ce qu'il a vécu jusqu'alors. Il a connu un deuil très douloureux, etc. Et il raconte ça, c'est une espèce d'ascension, alors on pourrait dire mystique, si le mot vous fait peur, on pourrait dire spirituel. En tout cas, c'est très très beau. Lisez-le, Mathiesen, c'est vraiment, c'est un classique. Juste, je vous vois me faire les gros yeux, mais je vous jure
non,
que ça ne dure pas longtemps.
Pas du tout,
c'est paranoïaque, ma chère Christina. Ça dure pas longtemps, juste une phrase et que ça vous donnera une idée du style extraordinaire de Mathiesen. 3 pigeons des neiges passent au-dessus de ma tête, leurs ailes blanches claquent dans l'air glacé. On dirait un haïku, c'est un haïku dans le texte et ça dit tout et de la perfection du style de Mathiesen et de sa recherche mystique, de sa sensibilité mystique.
Julien Bisson.
Oui, c'est vrai que Christina a cité Rick Bass, il a inspiré bon nombre d'auteurs, ouais. Je pense aussi à James Salter et à Jim Harrison également,
ouais,
qui
sûr.
Se réclamaient beaucoup de...
Ils
étaient très amis, et donc ils se réclamaient beaucoup voilà, de cette littérature. Il a vraiment fondé quelque chose voilà, dans ces années 50, 60, 70. Il a véritablement apporté un nouvel élan à ce nature writing à l'américaine.
Bah, il était un des premiers, en dehors des grands classiques.
Ça fait partie de ces figures tutélaires qui, aujourd'hui, nous donnent toute cette littérature qu'on connaît et qu'on aime tous.
Alors, autant vous dire, pardon, que le léopard, il en est question, hein, c'est une quête, mais on n'est pas sûr qu'il l'ait rencontré.
Le léopard des neiges de Peter Mathiesen, et c'est non pas chez Folio, mais chez Gallimard, dans la collection L'Imaginaire. Julien Bisson à lire ce week-end, Solaire, du britannique Ian McEwan, c'est en Folio cette fois. Pourquoi êtes-vous séduit par le héros du roman, Michael Bird, la cinquantaine, plus que mûr, chauve, rondouillard, dénué de toute séduction et un poil déprimé? Donnez-nous de partager le destin de ce Michael Bird dans Solaire.
Mais alors, si on remonte un petit peu, si j'avais envie de vous parler de Solaire, c'est à cause du succès du film Don't Look Up. Vous savez, le film événement d'Adam McKay avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Vous l'avez sans doute déjà vu, ou alors on vous en a tellement parlé ces dernières semaines que vous avez sans doute envie qu'elle se dépêche d'arriver, cette comète, histoire qu'on passe à autre chose. Mais le fait est que si on a beaucoup glosé sur la parodie que le film fait des responsables politiques, des médias, des réseaux sociaux, ce dont on a moins parlé, c'est de l'ironie dont Don't Look Up fait preuve aussi avec le corps scientifique, à travers le personnage de professeur joué par Leonardo DiCaprio, qui est une sorte de génie un peu ridicule dès lors qu'on veut bien lui promettre la gloire et le succès auprès des femmes. Eh bien, il y a une douzaine d'années, justement, l'écrivain Ian McEwan avait déjà imaginé un personnage du même type dans Rose Solaire. Solaire, c'est une savoureuse comédie très noire sur un prix Nobel de physique confronté déjà à la question du changement climatique. Vous l'avez dit, il s'appelle Michael Byrne. Il travaille sur les éoliennes avant de s'orienter vers l'énergie solaire pour sauver la planète. Jusque-là, un type bien, quoi, un type qui paraît avoir réussi sa vie et réussi à aider celle des autres, sauf, comme vous l'avez dit, que notre bon Michael, bah, il est en passe de divorcer pour la cinquième fois, que sa femme le trompe avec le plombier, qu'il est du genre à aligner les propos misogynes sans s'en rendre compte, et qu'il n'est pas contre voler les recherches de ses employés si jamais ça se présente. Bref, un anti-héros pour qui tout ne va pas toujours bien se passer dans ce roman, vous le lirez. Solaire, c'est un roman qui est génialement cynique sur la cupidité et la bassesse ordinaire cachée derrière les grands idéaux. En témoignent ces grands discours d'artistes écolos qui sont montrés dans le livre, convaincus qu'il faut mener à bien le grand sauvetage de la planète, mais incapables d'éviter l'entropie de leur vestiaire commun, dont le grand bazar au bout de quelques jours devient le symbole de nos ratages quotidiens. C'est un roman qui est peuplé de personnages narcissiques, opportunistes, bien pensants ou haineux, bref, des gens qu'on aime bien croiser dans les romans, mais pas forcément ailleurs. Un roman truffé aussi de scènes hilarantes, comme ces quelques pages près du pôle Nord, avec une scène de petite commission par grand froid, qui vous arrachera, je vous le promets, un fou rire garanti. Bref, Solaire, c'est un roman qui vient nous remonter un peu le moral en ce moment, parce qu'il nous permet de rire de nos défauts à tous, et il en viendrait même presque à nous faire croire que les personnages les plus affreux sont peut-être ceux qui parviendront à régler le problème du changement climatique. De ce côté-là, on peut toujours rêver.
Je l'ai commencé, je partage totalement votre enthousiasme. Julien Bisson, Solaire de Ian McEwan, c'est publié en poche. En folio, 10h18, l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Audicino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter ?
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Audicino, qui mérite notre amitié cette semaine ?
Alors, chère Ali, chères auditrices, chers auditeurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai toujours beaucoup aimé les contes de fées. Que ce soit dans les livres ou dans les adaptations de Disney, mais en me désolant régulièrement du statut de leurs héroïnes. Que ce soit Blanche-Neige, femme de ménage des sept nains qui rêve qu'un jour son prince viendra, Cendrillon, femme de ménage de sa marâtre, ou la Belle au bois dormant qui pionce très longtemps en attendant un baiser. Dans la grande majorité des cas, la princesse d'antan attend. C'est pour cela que je voudrais vous présenter mon amie la Belle. Avant d'être adaptée au cinéma par Jean Cocteau en 1946, puis de constituer l'un des plus grands succès de Walt Disney en 1991, la Belle et la Bête est avant tout, et c'est ô combien notable, un conte aux origines féminines. Et double, qui plus est, puisqu'il fut publié deux fois au XVIIIe siècle par deux autrices au style bien différent, et toutes deux dédaignées, ça alors, par le milieu littéraire de l'époque. D'abord comme fantaisie onirique, signée par Gabrielle Suzanne de Villeneuve en 1740, dans son recueil La Jeune Américaine et les Contes Marins, puis 16 ans plus tard, en 1756, par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, qui abrège le conte, le rend plus pédagogique et le fait accéder à la postérité. Mais dans les deux versions, merci mesdames, ce n'est donc pas la Belle qui attend, c'est la Bête. Dans celle plus coquine de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, le monstre velu demande chaque soir à Belle « Voulez-vous coucher avec moi ?» Non, c'est pas une chanson. Question rituelle que Madame le Prince de Beaumont assagira en « Voulez-vous être ma femme ?» À chaque fois, ma jeune amie dit non, tranquillement, et le monstre n'insiste pas. C'est elle qui décide.
N'ayez pas peur.
Je n'aurai pas peur.
Belle, acceptez-vous que je vous voie souper ?
Vous êtes le maître.
Non. Il n'y a ici de maître que vous.
Chez Cocteau, donc, il y a tout compris. On ne peut pas faire plus clair, même pour une question de dîner. D'ailleurs, dès le début, vous vous souvenez hein, du conte. Pour sauver son père, un marchand ruiné qui a eu le tort de cueillir une rose, la Belle prend sa place dans le château de la Bête. Eh bien, dès le début, ce conte repose sur le consentement. La Bête tient à ce qu'elle lui affirme qu'elle remplace bien papa de son plein gré, que personne ne l'y a forcé.
Mais tout de même, Guillemette, Belle est prisonnière.
Oui, Ali. Mais pendant que la Bête attend, donc, que la belle passe outre les apparences, parce que c'est l'un des enseignements du conte, évidemment, et qu'elle comprenne qu'un noble cœur bat sous la laideur poilue de son geôlier, bah, que fait mon ami dans ce château magique? Alors là encore, cela dépend des deux versions. Mais elle se complète pour former une jeune fille étonnamment moderne. Dans la première, chaque nuit, elle s'échauffe avec des rêves que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'érotiques, comme si son inconscient devinait déjà l'amant intentionné sous l'apparente bestialité. Dans la seconde version, fini les rêves. Belle est plus vertueuse, mais pour lutter contre l'ennui, elle dispose d'une grande bibliothèque et d'un clavecin. Alors, le sexe, les livres et la musique, voilà de quoi préjuger une chouette vie de couple. Inconscient érotique ou bonté d'âme d'une jeune fille qui cherche à s'émanciper par la culture, la récompense est la même, puisque la chose ultra poilue se transforme à chaque fois en prince. En tous les cas, mon amie Belle aspire avant tout à être bien traitée. Ce n'est pas la bête, mais bien elle qui doit être apprivoisée. Avec respect et sans rapport de domination. C'est ainsi, grâce à sa liberté et à son courage de dire non, puis oui, en toute conscience, qu'elle devient une princesse.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et...
Ah, je pensais ah, oui. Terminé, pardon.
Non, mais c'est vrai que ça sentait la chute.
Oui, c'est vrai.
J'avoue. Je le reconnais. Moi-même, j'ai hésité à me rester là quand j'ai écrit cette chronique. Donc, elle devient une princesse. Mais elle l'a bien mérité. Elle a bien mérité d'être dans le lit de ce prince-là, qui, contrairement à ceux qui se contentent de débarquer du jour au lendemain pour trouver chaussures à leurs pieds, eh ben, ce prince-là n'est pas une endive.
C'est la bonne chute, là?
Ça, c'est la bonne chute.
Thibaut de Saint-Maurice.
Bon. c'est magnifique. C'est une très belle lecture du conte. Ce qui est vrai, ce qui est fascinant, c'est la manière dont, en réalité, on n'a pas besoin, pour faire des histoires qui vont traverser les âges et qui vont, voilà, être formatrices ou pédagogiques. On n'a pas besoin de reproduire des structures narratives, des scripts, des clichés. On peut aussi les renverser, les disrupter, les twister, voilà, inverser les rôles. Et en fait, ça donne envie, ça aussi, de transmettre et ça devient un nouveau classique. Donc ça, je trouve que c'est très très fort dans ce conte-là.
L'ami du vendredi de Guillemette Audicino a partagé et a podcasté sur les applis France Inter et Radio France. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Alexia Rivière et Camille Poux-Jalagui avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation a été signée Claire Destacan, la programmation musicale Valentine Chedebois, à la technique cette semaine Clément Vuillet et Jérémy Kaufmann. Dans quelques instants, des destinations pour le week-end ou pour les vacances d'hiver. Et on écoute Taxi Girl. Taxi Girl, Chercher le garçon.
Alors allons-y franchement, hôtel des voyageurs.
Grand bien vous fasse.
Les Galapagos, les allées houssiennes. Je leur en fous, moi, les voyages.
Sur France Inter.
10h28 et quelques destinations pour le week-end et les vacances d'hiver.
Bon, allez, je vais t'en trouver un d'endroit, moi, tu vas voir. Vacances, tranquille, calme, sérénité. Pour collègues de bureau, bien, bien coincé du bulbe. Et surtout, loin du stress, pour récupération ultra urgente. J'ai. Alors là, là, tu vas être très très bien.
Bonjour David Habitant.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de l'excellent site thema.archi. On vous retrouve l'été sur France Inter avec votre chronique.
Les choses de la ville, effectivement. On parle d'architecture.
Racontez-nous le projet en quelques mots de thema.archi.
Thema.archi, c'est un média en ligne dans lequel on parle d'architecture, mais à destination de tous. Alors voilà, on a des émissions, on a des podcasts, des vidéos, tout un tas de choses pour parler de tous les sujets par le biais de l'architecture, du patrimoine de la ville.
Alors avec vous ce matin, on va défendre un patrimoine architectural parfois méconnu, et vous militez pour un tourisme gratuit.
Oui,
c'est pas mal en cette période.
Ouais. Hein. Non, mais c'est vrai que je suis journaliste d'architecture, je fais souvent plein de reportages et même pour des voyages personnels, je suis amené à beaucoup voyager en France et je me rends compte en fait à faire toutes ces villes que sans débourser un centime, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir, tellement de choses à apprendre juste en levant les yeux, en regardant les villes, en regardant les bâtiments qui nous entourent.
Bonjour Sylvain Bazin.
Bonjour.
Journaliste spécialisé dans la randonnée et les sports de nature, vous avez notamment publié les plus beaux endroits pour marcher en France. Alors on commence avec vous, on part sur la Côte Vermeille au sud des Pyrénées-Orientales.
Oui, tout à fait, Aline. On part là où les Pyrénées rencontrent la Méditerranée, au pied du massif des Alberts. C'est vraiment, je pense, une destination qu'on peut découvrir autrement au mois de février, hors saison. Et à mon avis, c'est la meilleure saison pour marcher là-bas. Alors la Côte Vermeille, on peut la suivre. Il y a 32 km de sentiers côtiers, d'Argelès jusqu'à la frontière espagnole. C'est une côte qui est assez facile à marcher. Il y a des on passe de petites criques en belles plages, évidemment avec des villages et des hameaux préservés, Argelès-sur-Mer. Et puis on peut découvrir aussi la cité Vauban de Collioure passage. Donc on a plein de découvertes à la fois naturelles et architecturales. On peut faire cette balade de 32 km, on peut même la poursuivre ensuite sur la côte en Catalogne jusqu'à Cadaqués, donc faire un peu le lien entre ce qui a inspiré Matisse, Picasso, Derain et puis l'inspiration de Salvador Dali. Tout un panel de découvertes, mais c'est ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on passe vraiment de petites criques en petites plages, petites découvertes aussi architecturales avec aussi des tours de guet anciennes qui sont très agréables et d'où l'on découvre des superbes points de vue sur la Méditerranée. Donc c'est vraiment une destination à découvrir hors saison pour se balader, avec aussi des petites randos. On peut faire de Collioure, monter au château de Valmy avec une architecture art moderne assez amusante, et puis aussi un beau panorama en haut.
Randonnée familiale?
Oui, bien sûr.
C'est
oui,
facile à faire.
Ça, alors sur la côte, quand on reste sur le sentier côtier, les dénivelés sont pas très importants. Après, on peut revenir en bus à son point de départ assez facilement. Donc oui, c'est tout à fait des randonnées qui sont accessibles à tous.
David Habitant.
Oui, si je peux me permettre pour rallonger encore le voyage, si on part de Paris ou d'Orléans, on peut même prendre le train de nuit. J'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques semaines. C'est incroyable. On va jusqu'à Portbou comme ça en Espagne, et puis on peut remonter tout le chemin des douaniers.
Tout à fait. C'est vrai que c'est assez pratique de Paris, le train de nuit. Et
pas très cher, là encore.
Guillemette Odissino, vive le train de nuit.
Ah oui, ça me fait rêver, moi. Quand j'étais enfant, je prenais tout le temps le train de nuit. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de... On a l'impression, c'est romanesque. Ouais. Il y a quelque chose qui tout de suite donne plus l'impression de voyager, de s'enfuir presque. Il y a une notion de fugue.
Christine Appelé-Noël.
Ah oui, le train de nuit, autrefois, il y avait, je sais pas s'il existe encore, le Capitole qui allait jusqu'à Rome. Magnifique, qui est passé par le lac Trasimène et tout ça, paysage extraordinaire. Et les trains de nuit pour partir à l'étranger, c'est...
Il y a de nombreuses lignes qui ont rouvert l'année dernière. Il y a, je crois, 5 ou 6 lignes en France, plus des lignes en Europe. Donc non, le train de nuit, il y a de quoi faire.
Effectivement, c'est le grand retour du train de nuit qui peut... Vous amener directement sur des belles destinations de balade, notamment.
David Habitant, pourquoi partir à Lens ce week-end ou pour les vacances?
J'en ai beaucoup des raisons pour lesquelles il faut partir à Lens. Alors, la première... Bon, déjà parce qu'il n'y a pas grand monde quand on va à Lens. Voilà, ça c'est quand même un sacré avantage quand on cherche à faire des bonnes vacances, un bon voyage sur un jour ou sur deux jours. On va à Lens et là déjà on a un patrimoine art déco assez exceptionnel. Ça on adore le patrimoine
méconnu,
art déco.
Méconnu.
Mais bien sûr, et en fait c'est toutes ces villes, il y a tout un tas de villes comme ça qui ont hélas subi beaucoup de destructions pendant la Première Guerre mondiale. Les reconstructions qui ont eu lieu à partir de la suite de la guerre, donc des années 18, forcément, on va aller vers le style de l'époque, c'est le style art déco, et ça fait que à Lens, comme dans tout un tas d'autres villes qui ont subi ce type de destruction, on a un patrimoine assez formidable et très facile à regarder, c'est-à-dire que déjà c'est un jeu de piste, on peut faire toute la ville de Lens à essayer de chercher les beaux windows, vous savez, ces fenêtres comme ça qui s'avancent sur la rue, à essayer de chercher toutes ces formes géométriques typiques de l'art déco. Donc voilà, ça c'est déjà une première raison de partir à Lens. Et puis aussi, alors, moi, je suis pas très très musée parce que ça coûte toujours très cher et que j'ai du mal à faire. Enfin, un musée pour moi, il faut y retourner 20 fois pour pouvoir vraiment s'imprégner un peu des œuvres. Eh ben, la chance à Lens, c'est qu'on a le Louvre Lens et cette incroyable galerie du temps qui est gratuite. Donc, gratuitement, vous pouvez y retourner autant de fois que vous voulez et vous avez pas beaucoup d'œuvres, donc de quoi bien les regarder. Et aussi, ce qui est magique dans cette galerie du temps, c'est que les œuvres sont rangées. C'est une grande salle, une seule grande salle, avec des œuvres rangées géographiquement. Donc, c'est-à-dire que, des œuvres rangées chronologiquement. C'est-à-dire que, quelle que soit la géographie, on se rend compte qu'est-ce qui se passe en Égypte à une certaine période et que c'est à la même période qu'est-ce qu'on a à des centaines de kilomètres de là et se rendre compte voilà qu'il y a certaines il y a des éléments qu'on retrouve d'une civilisation à une autre, c'est assez formidable.
Qui est allé au Louvre-Lens autour de la table? Personne.
Nous en avions parlé. Nous devions faire une expédition tous ensemble il y a déjà quelques temps.
Écoutez, on est à Paris, alors c'est quoi? C'est une heure de train, on peut y aller tout à l'heure si vous voulez et on revient ce soir. Tous ensemble. Donc, dernière raison d'aller à Lens? Allez, une dernière raison, c'est tous les terris. Vous savez, on est dans le bassin minier du nord de la France, on a tout un tas de ces grandes pyramides qui sont issues des résidus de charbon, voilà, de cette période où on allait récolter du charbon dans le nord de la France. Tout un tas de terris, on peut monter sur les terris. Alors il y a des visites guidées bien sûr qui sont sans doute très très bien. Je vous avoue que j'ai plutôt un faible pour voilà une petite barrière qu'on va discrètement décaler. c'est pas très dangereux, c'est tout à fait accessible. Et puis on se retrouve à grimper sur un terri. Et là, on revient sur notre balade naturelle. Vous voyez, on est en plein cœur de la ville et pourtant on a une faune incroyable. Non, pas une faune, plutôt une flore une incroyable. Flore, mais quelquefois, j'ai trouvé une chèvre l'autre jour qui était sur un terri.
C'est vrai?
Oui, je vous assure. Et en même temps, on a une vue sur la ville. Donc non, monter sur un terri, ça c'est exceptionnel. Et c'est gratuit là encore.
On se fait un terri, le Guillemette Odyssinaire?
Ah, mais oui. Mais vous me dites ça avec insolence, absolument.
Non, pas du tout. Je suis très sérieux. Sylvain Bazin, faisons le plein de vitamine D et de soleil en partant dans le Luberon. Or, je sais pas, quand on est chic, on dit Luberon. Enfin, je sais même pas comment
c'est
on dit exactement.
C'est difficile à dire.
Il me semblait que c'était une destination moins à la mode en ce moment que dans les années 80-90.
Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Alors, je saurais pas vraiment vous répondre, mais en termes de randonnée, en tout cas, elle continue à inspirer pas mal. Et puis, c'est vrai qu'une petite cure de soleil, c'est pas mal non plus en cette période.
Qu'est-ce que vous aimez dans le Luberon?
Alors, dans le Luberon, c'est vraiment la lumière qui est fantastique, hein, notamment évidemment quand on va se balader autour du Colorado provençal, hein, ce site qui est à la fois, ce sont des grandes cheminées de fées, des concrétions d'argile et de sable, hein, puisque c'est de là que naît l'ocre, hein, qui sont aussi des paysages façonnés par l'homme, hein, puisque c'est l'exploitation minière de cet ocre, hein, qui a créé ces sites extraordinaires. Alors, l'ocre, on n'est plus utilisé maintenant, ou très très peu. Avant, on l'utilisait dans l'industrie, hein, notamment pour les petites languettes autour des boîtes de conserve. Et maintenant, voilà, ça a été rendu aux promeneurs à partir des années 90, et on peut vraiment se promener dans les carrières d'ocre. Alors notamment... l'un des sites le plus important à Rustrel, hein, le Colorado provençal, avec ce paysage qui peut faire penser à certains grands parcs américains, alors un peu en réduction, mais ça reste très très impressionnant. Alors on peut faire des petites balades à l'intérieur, mais moi je conseillerais de faire carrément le tour, hein. Il y a une balade balisée de 14 kilomètres qui fait grimper au-dessus, qui permet vraiment d'avoir des points de vue sur cette ancienne mine d'ocre, et c'est très très joli. Et ça, en plus on on n'est même pas obligé de payer l'entrée pour les
raisins. Vive le tourisme gratuit ce matin. Christina Pelédouel.
Oui, dans le Luberon, pour parler comme il faut, il y a aussi la beauté absolument remarquable des paysages, enfin où qu'on soit, la douceur du paysage, la beauté de la chaîne du Luberon avec ses couleurs violettes au moment du soleil couchant, enfin c'est
bien
c'est
sûr, sublime. Oui, il y a beaucoup d'autres.
Et le village de Roussillon.
Tout à fait. Alors le village de Roussillon qui possède aussi un sentier autour d'une mine d'ocre qui est fermée actuellement. Il va rouvrir en avril. Hein, le site de Rustrel, il ouvre aujourd'hui, donc on peut déjà s'y balader. Et puis il y a beaucoup d'autres randonnées effectivement. Dans le Luberon, hein, les gorges de la Véroncle, le Mougre-Nègre, qui est le point culminant, hein, à peu près 1200 mètres d'altitude, qui permet d'embrasser une vue fantastique hein, sur tout le massif et puis jusqu'à la Sainte-Victoire, hein, pour se donner un petit... des parfums de Provence.
Et le ciel est bleu, mais d'une
parce que merci.
Oui, effectivement. Mais non, le ciel est d'autant plus bleu que la terre est ocre. Non, c'est absolument incroyable. Ce rapport entre le ciel et la terre donne une impression mais surréaliste, vraiment.
Les couleurs des ocres sont extraordinaires, du blanc au presque noir, avec toute la palette des rouges,
toute une gamme de couleurs,
des jaunes, enfin, c'est des couleurs très violentes.
Oui, hein, tout à fait, c'est toujours impressionnant et encore davantage quand il y a du soleil. Mais...
Et nous accueillons Céline, bienvenue Céline.
Bonjour.
Vous vouliez défendre une destination méconnue, on vous écoute Céline.
Je pense complètement méconnu. Donc c'est un petit village qui s'appelle Notre-Dame-du-Pré et qui est à seulement 20-25 minutes de Moutier. Alors Moutier, je pense que tout le monde connaît. C'est la ville où souvent on arrive en train pour ses vacances dans les stations de sport d'hiver. Bon, Moutier d'ailleurs vaut le coup parce qu'il y a 40 fresques de street art dans la ville, voilà. Donc sortez de la gare, n'hésitez pas si vous avez du temps à passer. Mais Notre-Dame-du-Pré, du coup, c'est un petit village et c'est la plus petite station de ski de Tarentaise. Il y a que 3 remontées mécaniques qui sont des téléskis et donc quelques pistes. Et c'est extrêmement authentique et c'est ça que j'adore. Il y a une ferme qui est toujours en plein milieu du village qui fait du Beaufort d'alpage. Et puis il y a un petit bar-restaurant et sur on va dire le front de neige qui est un mini front de neige, et ben il y a du vin chaud. Donc voilà, je trouve cet endroit magnifique, extrêmement ressourçant, c'est vraiment pleine nature et le village a gardé toute son âme. Il y a plein de balades à faire à pied ou en raquette depuis le village, c'est un spot de ski de rando avec le Mont Jauvet, voilà.
Mais vous êtes
et c'est à 7 minutes de La Plagne aussi.
Vous
du
êtes
domaine de La Plagne Montalbert.
Vous êtes une agente touristique absolument formidable, Céline. Grégory Cohen, on va y aller pour le Beaufort d'Alpage. Hein.
Pour le Beaufort d'Alpage, on est à 7 minutes de La Plagne. Pour le bar restaurant aussi, pour l'ambiance, c'est vraiment féerique. Quoi. Voilà.
Merci Céline d'avoir défendu les couleurs de Notre-Dame-du-Pré en Savoie. N'hésitez pas, comme Céline, à nous appeler au 01 45 24 7000 pour défendre votre région. Alors, une destination très poétique en hiver. David Habitant, la Grande Motte, la célèbre station balnéaire du département de l'Hérault, avec une architecture longtemps décriée et que l'on redécouvre aujourd'hui.
Oui, on la redécouvre totalement. Ces grandes pyramides de béton blanc qui, à l'époque, pouvait faire parler des gens comme ma voisine, Christina. Je crois qu'elle n'est pas grand fan de la Grande Motte.
Mais je vous invite,
Christina. Elle a tort, Christina. Pourquoi Christina a tort?
Elle a tort. Elle n'a pas toujours tort. Mais sur ce point-là, je dois bien dire, que, alors, d'une part, déjà, la Grande Motte, ça a changé. C'est-à-dire que ces pyramides de béton des années 60, aujourd'hui, elles sont presque recouvertes d'un tapis végétal parce que c'est une ville qui est née de rien, la Grande Motte. Donc, il n'y avait aucune végétation à l'époque. Aujourd'hui, en 2022, il y a une canopée incroyable, c'est vert et blanc la Grande Motte désormais, avec en plus le bleu du ciel Guillemette, donc on est dans des couleurs exceptionnelles. Et puis pourquoi aller à la Grande Motte? Bon bah comme Lens, la Grande Motte en été, il y a suffisamment de monde, allons-y en hiver, on sera entre nous et ce sera tout aussi agréable. La Grande Motte, donc ces villes nées de rien, on le disait, c'est à l'époque, c'est dans les années 60, le gouvernement du général de Gaulle qui cherchait à créer des points point d'attache de tourisme dans le sud de la France.
Parce que il y avait la concurrence du tourisme espagnol.
Mais bien sûr, c'est ça. Alors du coup, sur la route de l'Espagne, ben voilà, on met un point d'arrêt sur la Grande Motte. Mais en fait, comme toutes les villes qui sont construites d'un seul coup, en une seule fois, c'est toujours assez exceptionnel d'être au milieu de tout ça. C'est toujours un peu surréaliste, surnaturel. Je pense à d'autres villes qui n'ont absolument rien à voir, mais quand on va en Alsace, il y a cette ville de Vauban qui s'appelle Neuf-Brisach. On est dans un endroit, tout est homogène, c'est assez étonnant d'être au milieu de ça. Mais comme Le Havre aussi, je crois qui est cher, qui vous est cher Thibault. Le Havre aussi, c'est ce genre de ville issue de la reconstruction, cette fois de la Deuxième Guerre mondiale, où du coup toute l'architecture a été construite en même temps. Et ben voilà, donc la Grande Motte, pour d'autres raisons, toute l'architecture a été construite en même temps, et ça rend voilà un ensemble assez extraordinaire. Christina, je vous assure qu'il faut qu'on y retourne.
Bon, d'accord. Comme vous voulez. Le week-end prochain.
Thibaut de Saint-Maurice, sur le Havre. Une impérieuse envie d'aller au Havre en ce moment?
Non, alors, il n'y a pas de saison. On peut y aller tout le temps au Havre. Mais moi, c'est une ville vraiment que j'ai découverte il y a quelques années et qui m'a vraiment saisi, en fait. Parce que on m'en avait dit vraiment, on m'a dit, tu vas voir comme c'est moche, tout est bétonné, etc.
Et, c'est bon signe. Hein, quand on vous dit ça, généralement, c'est bon signe.
Voilà,
c'est
bien à découvrir. Et en fait, pas du tout. Il y a ce côté très homogène donc de Auguste Perret qui reconstruit le centre-ville parce que la ville a été détruite par des bombardements. Il y a évidemment après le théâtre du volcan, le centre culturel Oscar Niemeyer, l'architecte de Brasilia, etc. Et donc qui est très étonnante en plein milieu de ça. Et puis alors vraiment moi ce qui m'a le plus saisi c'est l'église Saint-Joseph. C'est une église de béton avec une sorte de clocher tout plein de vitrail ou de vitraux. Il y a quelque chose de on comprend comment est-ce que on peut avoir une émotion architecturale dans une église, pas forcément parce que c'est du gothique, du roman et que c'est il y a le poids des siècles, etc., mais que c'est très contemporain. Donc voilà. Et puis après, si on a envie de sortir, il y a le port de commerce, il y a la Sainte-Adresse, la station balnéaire à côté,
il y a le musée d'art moderne.
Et il y a le musée d'art moderne, etc. Donc en fait, on peut avoir plein de paysages et d'émotions différentes. Et c'est cette fois-ci 2 heures de Paris. Voilà.
Il n'y a pas que Paris dans la vie.
Je suis tellement d'accord avec Thibault. Le Havre, ça fait partie de ces villes qui vraiment sont surprenantes. C'est-à-dire, on y arrive ou avec alors des idées reçues ridicules, ou avec, j'ai une certaine idée de la modernité, du paysage urbain moderne. Et en fait, c'est vraiment une ville qui choque quelque chose. Moi aussi, j'ai été la première fois que j'y suis allée, je me suis dit vraiment c'est la ville qui vous fait dire merde alors. Non. Je suis amoureuse de cette ville. On en tombe amoureux direct.
Et fait partie de ce club également, ma chère Guillemette. Tiens, Julien Bisson, une destination refuge pour vous en ce moment, c'est la forêt de Brocéliande autour de Paimpont.
Oui, la forêt de Brocéliande, il paraît qu'il va faire assez beau ce week-end en Bretagne. La température est douce, donc autant aller se balader un petit peu. Et c'est vrai que la forêt de Brocéliande, c'est un lieu assez étonnant parce que c'est un lieu évidemment nourri de légendes, de mythes. Et quand on vous allez faire la visite guidée, on va vous dire qu'à chaque petite mare, en réalité, la fée Morgane est passée par ici, Lancelot du Lac est passé par là. Il y a évidemment un petit côté folklorique sur lequel la municipalité fait un peu son beurre. Mais mine de rien, quand même, c'est une forêt qui est absolument magnifique, qui vaut le coup, sans même parler des légendes, et que voilà, dans une météo un peu comme celle-là, eh bien aller se balader au pied, vous savez, de cet arbre d'or qui est un peu l'emblème de cette forêt, c'est tout à fait appréciable.
Alors à propos de forêt, Christy Lapelle-Edouel, vous nous conseillez un livre de Jacques Tassin, publié chez Belin, ça s'appelle Le Chêne, raconté par ses habitants.
C'est un beau livre, un grand et beau livre qui sort en même temps que le film qui porte le même nom, qui est un film de Laurent Charbonnier et Michel Sédoux. Et ce livre, alors évidemment les images sont superbes, mais le texte de Jacques Tassin, je vous assure, vaut vraiment qu'on s'y penche. On comprend tout ce qui se passe autour d'un chêne, de cet arbre, ce majestueux et magnifique qui est l'emblème des forêts françaises. Et on comprend à quel point, parce que Jacques Tassin, qui est chercheur, spécialiste de la forêt, on comprend à travers le texte à quel point sont liés et les végétaux et les animaux. Voilà. Donc, je vous donne un petit exemple rapide. Il y a 2 ou 3 pages sur le jet, l'oiseau, qui est l'un des vecteurs les plus importants pour permettre aux chênes de se reproduire. C'est-à-dire que le jet prend les glands et les emmène assez loin et donc permet à la forêt de s'étendre. Donc cette collaboration entre la faune et la flore, Tassin en parle tellement bien, l'explique de manière tellement claire. Non mais je vous assure, la prochaine fois, allez vous balader en forêt, regardez les chênes. Alors notre ami Laurent Tillon nous a évidemment, avec son livre, emmené aussi à la découverte des chênes. Mais là, c'est un complément très scientifique, mais à la portée de tout le monde, pour comprendre à quel point il est important, à la fois de préserver, bien entendu, de planter et de veiller à ce que la faune puisse également être protégée et se développer dans les forêts. Voilà. Donc moi, j'ai adoré ce livre. C'est un très beau livre.
Donc ça s'appelle « Le chêne raconté par ses habitants » de Jacques Tassin, c'est publié chez Belin. Un mot d'une conférence de Laurent Tillon disponible en ligne.
Oui, une conférence TEDx dans laquelle Laurent explique pourquoi nous nous sentons si bien et pourquoi aller se balader en forêt nous fait du bien. Et vous allez voir que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Il y a une légère surprise, mais je ne dévoile rien. En tout cas, c'est très drôle. Cette conférence est très bien et très drôle.
Et vous retrouvez bien évidemment tous les conseils sur l'appli France Inter. Il est réputé solide comme un chêne. Thibaut de Saint-Maurice, c'est l'heure de sa chronique philo.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Ah oui, carrément. Quoi. Ah bah non.
Alors, à quelques heures de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, là on entend l'hymne officiel des Jeux Olympiques, vous vous demandez, Thibaut de Saint-Maurice, que faire de l'olympisme, de son idéal et de ses valeurs?
Ben oui Ali, parce qu'il me semble que c'est une autre manière d'aborder la question qui ne cesse de tourner depuis des mois, hein, pour ou contre le boycott. C'est aussi cette question qui tournait déjà en 2014 pour les JO de Sotchi en Russie, et qui tournait déjà en 2018 pour les JO déjà à Pékin, qui tournait aussi au temps de la guerre froide, les JO de Moscou, de Los Angeles, et puis les Jeux de Berlin en 1936. Bref, cette question du boycott, hein, qui est aussi vieille que l'olympisme, elle est assurément légitime, mais elle est aussi assurément difficile à trancher. Alors peut-être peut-on essayer de la prendre par un autre bout, peut-être peut-on légèrement déplacer la question et se demander si l'on a encore besoin de l'olympisme et de ses valeurs, si ces valeurs ont encore du sens aujourd'hui, si elles permettent de dessiner les contours d'un monde commun, bref, si ces valeurs nous font du bien.
Alors ces valeurs, ce sont l'excellence individuelle, l'amitié et le respect entre les peuples.
Oui, ce sont les trois piliers de l'olympisme moderne, tels qu'ils sont décrits dans la charte olympique publiée en 1908 et rédigée à partir notamment donc des écrits de Pierre de Coubertin. Alors l'excellence, c'est la recherche du dépassement de soi, plus haut, plus vite, plus fort. Est-ce que vous savez le dire en latin?
Non, pas du
tout. Situs, altus, fortus.
Ouais, pas mal.
Bravo Julien Bisson.
Bon élève. Alors l'amitié, c'est le souci de la paix et d'un esprit de fair-play dans le déroulement des épreuves. Et puis le respect, c'est le refus de l'affrontement violent et le souci de reconnaître chacun et chacune dans ses différences, de s'engager dans une compréhension mutuelle. Tout cela pour bâtir un monde meilleur par le sport ou pour mettre le sport au service de l'humanité. Voilà, c'est très beau. L'olympisme est une utopie. L'idée d'un monde où l'effort de chacun participe du triomphe de tous, où l'affrontement devient rencontre et où chacun et chacune peut trouver sa place. Alors question donc, avons-nous besoin de cette utopie? Avons-nous besoin de cet idéal? Alors que la réalité, eh ben, elle est tout autre, hein. La réalité, c'est aussi la compétition de chacun contre chacun, la pression permanente de la performance, le dopage, la récupération politique de pays qui sont en contradiction avec ces valeurs. C'est donc cet écart entre l'idéal et la réalité qu'il faut penser, et moi je vous propose de le penser avec le philosophe Emmanuel Kant. Parce que pour Kant, notre connaissance, comme notre moralité ou notre capacité d'action, eh bien elles sont limitées. Notre condition humaine fait que nous ne pouvons pas tout connaître, tout faire, et que nous ne pouvons pas toujours faire le bien. Mais nous pouvons penser des idées, nous pouvons nourrir des idéaux qui vont venir réguler notre action et nous faire tendre ou progresser vers du mieux. C'est ce qui permet à Kant, par exemple, d'écrire un projet de paix perpétuelle. Alors ça paraît bien naïf en apparence, mais justement régulé par cet horizon que nous ouvre l'idéal et auquel notre humanité, bien que limitée, est pourtant capable de s'accrocher. Voilà, il me semble que l'olympisme peut être pensé comme un idéal régulateur de notre humanité. Il faut donc défendre son caractère absolument utopique et aussi nécessairement, il faut pointer l'écart entre l'idéal qu'il propose et la réalité qui est incarnée. Parce que plus on va pointer cet écart, plus on va rappeler l'horizon idéal qu'il trace et plus la progression est possible. Nous avons besoin de l'olympisme comme de bien d'autres idéaux. L'idéalisme n'est pas une erreur de jeunesse. Attention, hein, traitez pas les gens d'idéalistes. Les idéaux comme les utopies, c'est utile, ça donne à rêver, à penser, à espérer, c'est le moteur de l'avenir. Et attention, parce qu'elles finissent toujours, les idées, par changer le monde.
Guillemette Audicino qui n'arrête pas d'acquiescer à la chronique de Thibaut
Ah oui, c'est vrai, je fais un mouvement comme ça avec la tête.
Comme les petits chiens à l'arrière des voitures.
Voilà, merci beaucoup, les petits chiens à l'arrière de la voiture. Non, mais je trouve ça passionnant. Et en fait, ça m'éclaire aussi sur le fait qu'à chaque fois... On a au début une polémique, quand il y a des Jeux Olympiques, et à la fin, dès qu'on a une médaille ou un champion qui nous a complètement renversé le cœur par sa performance, on est complètement pour les Jeux Olympiques.
Sylvain Bazin.
Et donc l'idéal nous rejoint d'une certaine manière à certains moments de humains, quand on voit le sportif dans sa complétude, c'est quand même magnifique.
Je suis complètement d'accord, et en plus, les Jeux Olympiques, typiquement, transcendent le politique, hein. On parlait des boycotts, etc. Et finalement, les boycotts de 76, de 80, de 84, on s'en souvient, mais on se souvient davantage encore de l'arrivée du 10 000 mètres des Jeux Olympiques de 92, avec cette Sud-Africaine Elena Meyer et cette Éthiopienne Derar Toutoulou qui font le tour d'honneur ensemble, alors même que l'Afrique du Sud était exclue des Jeux Olympiques pendant longtemps pour l'apartheid, et ça, c'était un symbole extraordinaire, et c'est la force des... pour moi, de l'idéal olympique.
La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice à partager sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, la recette gourmande de Grégory Cohen a réalisé ce week-end. Gâteau de crêpes aux agrumes meringués. Christine Appelé-Douelle défaille déjà.
Oui.
Celle s'interpréter Something's Return. Et c'est l'heure de la recette de Grégory Cohen. Grégory Cohen, une recette de gâteau aux crêpes aux agrumes meringués.
Voilà, exactement, une recette qu'on a un petit peu inventée pour cette émission. J'adore ce générique d'ailleurs, au passage. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin de réaliser trois étapes. Il va falloir faire des crêpes.
Oui.
150 792 recettes de crêpes différentes, moi je vous dirai la mienne. De crème de citron, et ça va être une crème de citron assez rapide. De meringue et de confiture d'orange. Et d'un alcool d'orange, alors du Cointreau, du Grand Marnier, pour flamber la meringue, un peu façon omelette norvégienne. On démarre par les crêpes. Il nous faudra 250 g de farine tamisée, 4 œufs, 45 centilitres de lait tiède, 50 g de beurre fondu. On peut se passer du beurre fondu si on veut. Mmh. Et du coup, on mettra 50 centilitres de lait tiède, une pincée de sel, une gousse de vanille. Alors, dans cette recette, vous voyez, j'ai pas mis de sucre.
Mmh.
On va mélanger tous les éléments secs ensemble, puis ajouter les œufs, le beurre fondu, progressivement le lait en battant avec un fouet pour éviter la formation de grumeaux. Une autre solution... Alors un petit truc, c'est de mettre tous les ingrédients dans un mixeur, comme ça vous serez certain de ne pas avoir de grumeaux et la pâte sera hyper lisse. Je crois, Ali, que vous avez essayé cette technique et que ça marche très bien.
Oui, ça marche très bien.
On va ensuite ajouter les graines de vanille, mélanger à nouveau, laisser reposer 15 minutes avant d'attaquer la cuisson. Alors pour la cuisson, on fait cuire nos crêpes de chaque côté pour être sûr qu'elles soient bien dorées. Au fur et à mesure, on les réserve dans une assiette, on laisse refroidir. On devrait avoir avec ces quantités-là à peu près 20 crêpes. Pour la crème mascarpone au citron, il nous faut 250 g de mascarpone, 100 g de sucre, 2 jus et zestes de citron vert et 25 centilitres de crème liquide 35%. Alors on monte la crème liquide avec le mascarpone, on ajoute le jus et les zestes de citron et on laisse prendre idéalement une heure au réfrigérateur pour que le mascarpone se fige à nouveau. Et puis pour la meringue, vous voyez on est déjà là, il faut 3 blancs d'œufs, 90 g de sucre en poudre, 90 g de sucre glace. Si vous n'avez pas de sucre glace, vous prenez du sucre en poudre, vous le mettez dans votre mixeur et ça va donner du sucre glace. On monte les blancs en neige en ajoutant peu à peu le sucre en poudre. Une fois que les blancs deviennent bien fermes, on verse le sucre glace, on fouette encore 2 minutes. Et là, on va monter le gâteau. On dispose une crêpe, on étale dessus une fine couche de crème au mascarpone, puis une autre crêpe, la confiture d'orange. On répète l'opération jusqu'à avoir empilé nos 20 crêpes. Ensuite, et ça c'est la petite astuce, on coupe en deux notre gâteau, on le superpose et du coup on aura 40 crêpes. On recouvre le gâteau de crêpes de la meringue à l'aide d'une spatule, on fait chauffer l'alcool d'orange, on la flambe, on la coule sur la meringue, elle va se colorer et on déguste, c'est à tomber par terre.
Merci beaucoup de nous avoir donné faim, mon cher Grégory. Et on peut retrouver votre recette sur votre compte Instagram Grégory Cohen Off, off avec
deux F.
Merci beaucoup, merci David Habitant, je recommande votre site thema.archi, merci Sylvain Bazin. Votre dernier livre, c'est Les plus beaux endroits pour camper, c'est chez Ground. Si vous souffrez de douleurs au cervical, de torticolis, d'épaule raidie, de lumbago, d'arthrose du genou, eh bien nos experts kinés ostéopathes vous remettront en mouvement lundi. Vous pouvez d'ores et déjà nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter.